Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Emmanuel Morsdinkan et Martin Guénard. Réalisation Thomas Beau. Ce vendredi soir, une dispute consacrée donc exceptionnellement à la littérature puisque nous sommes en direct et en public du Salon Livre Paris à la Porte de Versailles. Et autour de moi ce soir, Lucille Como, Raphaël Léris et Florent Georgescu pour parler ensemble de L'archipel des Solovki de Zakhar Prilépine, publié chez Actes Sud, Les guerres perdues de Youri Belaïev de Pierre Sautreuil chez Grasset, et puis Des jours d'une stupéfiante clarté d'Aaron Appelfeld aux éditions de l'Olivier. Boris Spinot est également avec nous. Il surveillera les fils Twitter et Facebook pour donner à entendre les commentaires que vous pourriez avoir sur les livres dont nous allons parler. Et puis, bien sûr, des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Parfums de Chine, la culture de l'encens au temps des empereurs. C'est à découvrir jusqu'au 26 août au musée Cernouski à Paris. Nous ouvrons cette dispute en nous inscrivant pleinement dans le cadre de Salon du Livre et je vérifie que Florent Georgescu, à l'autre bout de cette immense table, m'entend. Vous m'entendez, Florent ?
Oui,
bien sûr.
Donc vous parliez du pays invité cette année, c'est ça ? Qui est le Maroc, c'est ça ce que vous avez dit ?
Sinon, on a prévu de faire l'émission par SMS. Hein. Je vous envoie mes questions.
Je sors mon portable.
Et vous nous répondez. Raphaël Léris, tout va bien pour vous. Vous m'entendez ? Vous en entendez ça sur 5, les auditeurs non, parce que les micros sont pas tous ouverts en même temps. Et on va essayer Lucille Como, tiens, je préviens Emmanuel.
Moi, je vous entends très bien.
C'est merveilleux.
J'ai l'impression de m'entendre moi-même, donc ça va.
Ah, d'accord. Et vous êtes contente quand vous entendez vous-même. Voilà ce qu'on retiendra de ce qu'a dit Lucille Como. J'espère que le public présent dans les allées du salon pour nous écouter nous entend également. Donc, Russie, invité d'honneur. Donc, ça nous a donné l'occasion et peut-être aussi le courage, l'énergie pour nous plonger dans les 800 et quelques pages grand format de l'archipel des Solovki de Zakhar Prilépine, publié chez Actes Sud, dans une traduction de Joël Dublanchet. Zakhar Prilépine, c'est un des auteurs russes vivants les plus importants de son pays. Et on va en parler, mais peut-être en digne héritier de Dostoïevski, il raconte donc la vie dans les Solovki, premier camp du régime soviétique à 160 km du pôle Nord. Nous avons parlé ces dernières années à deux reprises des Solovki dans nos émissions littéraires avec le roman d'Olivier Rollin, le météorologue, consacré à un homme qui avait purgé 10 années de réclusion et puis avec un formidable texte qui s'appelle Révolté de Yevgenia Yaroslavskaya Marcon qui avait été déporté aux îles Solovki, condamné à mort et exécuté là-bas à l'âge de 29 ans. Prilépine, lui, nous raconte les premières années de ce camp. La nuit, la température baissa encore. Artyom, comme presque tous dans l'isolateur carcéral, avait un sommeil haché. En une heure ou deux, il eut tellement froid que sa raison se brouilla. Il dut se lever et, se heurtant aux autres détenus, marcher en rond dans une totale obscurité. Il se recoucha, enleva ses chaussettes et mit ses mains dedans comme dans des moufles. Et il rêva qu'il avait tellement distendu une chaussette qu'il s'y était glissé tout entier. Ce fut le dernier rêve agréable de cette nuit. Il fallut bientôt se relever, il faisait infiniment plus froid, bien qu'il semblât que ça ne pouvait pas être pire. « Et s'il neige ?» pensa Artyom. « Il ne fait vraisemblablement même pas moins 1 degré en ce moment. » Il se remit à marcher en rond. Les punaises étaient revenues. Après avoir quitté la 12e compagnie, Artyom avait eu le temps de les oublier. Dans la 2e, on arrivait plus ou moins à les tuer. À Lyotprod et sur les îles aux renards, il n'y en avait pas du tout. Ici, elle le harcelait et l'aidait à lutter contre le sommeil. Quelqu'un qui s'était quand même endormi en marchant s'effondra sur Artyom. Il rattrapa le dormeur. Son premier mouvement fut de se débarrasser de ce corps étranger, mais au lieu de cela, il le retint un peu plus longtemps entre ses bras. Le corps était tiède. Après la 3e immersion dans un mauvais sommeil qu'il avait emporté dans une sorte de glace pilée, plus vraie que nature, et avait collé ses entrailles et sa peau, il renonça à tenter de dormir. Ni la marche, ni les grimaces, ni les sauts ne purent le réchauffer suffisamment pour qu'il ait la volonté nécessaire de s'allonger sur son chalut. Qu'aurait-il pu y faire, sinon crever ? Le froid lui a fait oublier ses douleurs dans les côtes, son nez meurtri, monstrueusement gonflé, ses mains couvertes de cloques et sa mâchoire défoncée au point que chaque mot prononcé un peu fort se répercutait dans sa nuque, comme si dans son cerveau n'arrêtait pas de tourner une arête de poisson. Voilà, j'aurais pu lire à peu près toutes les pages de cet archipel des Solovki et trouver pareille description absolument terrible, écrite par Zakhar Prilépine dans ce livre, voilà, dont certes Artyom est le personnage qui va nous servir de guide, guide terrible, mais on va en découvrir bien d'autres autour de lui. Lucille Gomeau, premier regard sur ce livre.
Oui, c'est pas un livre qui est seulement ample par le nombre de ses pages, c'est je crois un roman qui a un souffle très particulier et qui nous porte vraiment du début à la fin avec la création à l'intérieur d'un monde entier, avec tout ce que ça peut comporter à la fois d'habitants, de règles, de lois, d'histoires, puisqu'il y a des changements qui se créent, qui sont historiques, on peut le dire, à l'échelle de ce petit monde-là. En fait, il a de commun avec tous les récits de camps et même en général les récits d'emprisonnement, de réellement border entièrement, bon là c'est un archipel, un milieu dans lequel évoluent des personnages, donc là des personnages qui sont particulièrement variés, puisqu'il y a une hiérarchie de personnages et de détenus qui est impressionnante depuis la grande intelligentsia russe, les contre-révolutionnaires, jusqu'aux plus petits des prisonniers de droit commun qui parlent à peine la même langue, même on s'en rend compte en lisant ces pages-là. On parle en effet, à raison de Dostoïevski, dès la 4e de couverture, et les comparaisons viennent immédiatement en tête. Moi, j'ai aussi beaucoup pensé à Tolstoï pour ce qui est de la structure et de l'efficacité du récit, qui est vraiment, moi je trouve, époustouflante et qui tient beaucoup à l'écriture des dialogues. Là, vous avez lu un passage qui n'est pas dialogué, mais ils sont assez rares.
C'est plus simple à lire tout seul, je ne vais pas vous le cacher, Lucie.
Mais il faut bien savoir que ce livre est quasiment entièrement constitué de dialogues qui tiennent à l'intérieur et dans des répliques qui sont parfois extrêmement courtes, toute la substance, y compris organique, géographique, etc., de ce lieu des îles Solovki. Y a une amplitude aussi, bon ça tient à ce type de roman, à la fois de ton et de régime d'écriture, du plus comique, du plus bas, du plus trivial, de la description la plus organique, de la faim, de l'envie sexuelle, jusqu'à des réflexions d'ordre théorique et philosophique, voire spirituel, de très très haute volée. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu entre les mains un objet d'une telle amplitude littéraire à tous les sens du terme.
Florent Georgesco fait un peu de grimace pendant que vous parlez, Lucille. Je dois le dire, et nous avons de nombreux témoins aujourd'hui.
Florent. Je fais toujours des grimaces quand je vais en salon de livre, je sais pas pourquoi. Mais écoutez, si j'avais commencé, si vous m'aviez donné la parole en premier, Arnaud,
je m'en suis bien gardé.
J'aurais eu beaucoup de compliments à faire sur ce livre. Mais qui est sincèrement un livre extrêmement prenant, qu'on lit avec énormément de plaisir, qui est d'un intérêt historique assez grand. Peut-être qu'on peut ajouter un petit mot sur ça avant de parler de littérature. Ce qui est très intéressant là-dedans, vous avez rappelé d'ailleurs, Arnaud, qu'il y a d'autres livres qui nous ont parlé des Solovki, mais ce que montre bien Prilépine dans la structure même du livre, c'est la progression du camp vers le système du goulag. C'est, et en quelque sorte, il se sert de ce microcosme pour montrer aussi la progression du régime vers le totalitarisme strict, si je puis dire. Ça, c'est une des choses extrêmement fortes dans le livre et qui en font une lecture extrêmement intéressante, en plus du fait que, bien sûr, il a le sens du mouvement, il a le sens de l'incarnation de ses personnages, etc. Mais enfin, je ne partage pas totalement l'approbation de Lucille sur... sur l'étendard Dostoïevski. Il y a quand même une difficulté à identifier ce texte qui est parfois, malgré tout, malgré toute la violence, malgré toute la force de la vision historique, si on veut, et malgré la richesse des personnages, mais il est quand même difficile de lui trouver l'intensité, la violence proprement mystique dans Dostoïevski. Je trouve qu'il reste très à la surface. Ce qu'il y a, c'est qu'il reste à la surface de quelque chose qui est extrêmement puissant en soi, historiquement. Mais et il est toujours plus facile tout de même d'impressionner et d'émouvoir quand on parle d'un camp soviétique que quand on raconte, je ne sais pas, l'histoire d'une famille bourgeoise en Scandinavie. Mais en l'occurrence, il y a plus de l'histoire que de l'écrivain dans la force du livre, à mon avis. Prilepine lui-même a dit dans une interview, d'ailleurs dans un excellent journal qui s'appelle Le Monde, je ne sais pas si vous connaissez, dans une interview à Nicolas Veil à l'automne dernier, il disait « J'ai voulu, dans mon personnage principal, faire les trois frères Karamazov en une seule figure. » Non. Non. Voilà.
Bon. Alors, Lucille Comeau, elle aussi fait beaucoup de grimaces pendant que vous parliez, Florent, mais c'est Raphaël Léris.
Nous échangerons nos grimaces.
Dans un instant. Raphaël Léris.
Non, moi, d'abord, je voudrais remercier la personne qui a suggéré qu'on mette ce texte au programme de l'avoir fait.
On remercie Lucille Comeau.
Je remercie Lucille à la mesure où je l'ai maudite en essayant de caser ces 800 pages denses dans mon programme de lecture. Sinon, j'en suis certaine, je pense que j'aurais gardé ce livre comme un que je lirai un jour, peut-être, quand j'aurai le temps, et d'autant plus
donc
que...
Donc ça veut dire pas, ça, dans
voilà,
ce cas-là.
Voilà, ça veut dire pas, d'autant plus que... pourquoi ne pas le dire, on peut avoir des restrictions politiques à l'égard de Zakhar Prilepine, qui est une figure du nationalisme d'extrême-gauche russe, qui a combattu en Tchétchénie, enfin voilà, donc c'est une figure...
Et dans le Donbass aussi,
qui combat dans le Donbass, donc on peut en parler. Mais en tout état de cause, donc, c'est un texte qui brasse tellement de choses, tellement de personnages, que ça aurait été extraordinairement dommage de passer à côté. Et c'est un texte d'une ambiguïté phénoménale. Et c'est un texte donc, qui a eu un grand, grand succès en Russie. Je crois qu'on est au-delà de 200 000 ventes depuis 2014, sa parution, et qui raconte ce qui est un petit peu le propre du totalitarisme soviétique, comment les victimes et les bourreaux échangent de place en permanence. Moi, ce qui me frappe, alors il y a mille choses hein, qui sont fascinantes dans ce livre. Ce qui me frappe beaucoup, c'est la manière dont il aborde la russité d'une manière très métaphysique. Il y a beaucoup de phrases dans les conversations qu'ont les personnages sur l'homme russe qui n'a pas de pitié de lui-même, ou en Russie, Dieu laisse tout faire, et c'est à ça qu'on a affaire dans ce texte qui, dans sa version originale, s'appelle Le Monastère, parce que au départ, dans l'archipel des Solovki, c'est un haut lieu du monachisme orthodoxe. Donc, il y a une dimension métaphysique que je trouve spectaculaire, mêlée voilà, à ce que c'est que d'être un homme russe, ce que c'est que de penser qu'au fond, la punition qui est incarnée par le système concentrationnaire qui se met en place là, on la mérite d'une manière ou d'une autre. Il y a une scène extraordinaire de confession générale dans l'église, dans le lieu d'isolateur dont vous parliez, dont il est question dans le passage que vous lisiez, un moment où tout le monde confesse ses fautes, qui est strictement hallucinant. Et donc, moi, ça fait partie de la force pour moi de ce texte. Après, moi, si j'ai des réserves, elles tiennent plus à l'éternelle question de à quel point on peut faire du romanesque avec le système concentrationnaire, à quel point on peut mettre une histoire d'amour parce que le vague... sujet de l'intrigue, c'est donc Artyom, qui est le personnage principal, qui a une liaison avec une femme qui se trouve être la maîtresse du chef du camp, qui lui-même a vraiment existé. Et alors ça, pour le coup, je trouve que ça ne fonctionne pas. Les scènes sexuelles entre les deux m'intéressent modérément. Et je ne trouve pas que cette intrigue-là suffise à sous-tendre le livre. Et néanmoins, il y a un souffle extraordinaire. Et ça ne permet pas, je pense, en tout cas pour moi, de régler la question de la fiction qu'on fait avec le système concentrationnaire.
Alors, c'est vrai que cette histoire d'amour, je pense qu'on partagera ce ressenti, voilà, est un ressort romanesque un peu gros dans un roman qui, au-delà de ça, est extrêmement bien documenté. J'ai lu aussi dans un autre journal que vous connaissez peut-être, mais qui s'appelle Le Temps, qui est dans un autre pays, la Confédération helvétique, un entretien avec Georges Niva, grand spécialiste de la Russie, qui dit qu'à l'évidence, Prilipine s'est extrêmement bien documenté, a fait très très bien son travail et que les faits historiques rapportés sont vraiment d'une grande précision, d'une grande justesse. Cette histoire d'amour, bon, alors c'est un ressort. Par ailleurs, concernant Dostoïevski, moi, le problème que j'ai davantage avec ce livre, c'est plus souvent, on en a parlé hors émission avec Lucette Comeau, c'est pour un problème de langue. Je trouve que c'est quelque chose d'un peu... Voilà, il ne brille pas par son style. Il y a une efficacité. Enfin, c'est vraiment un livre, moi, qui m'a tout à fait happé. Hein, on a vraiment envie... Là aussi, il faut les caser ces 800 pages dans l'agenda, mais on n'a vraiment pas envie de lâcher. Il sait, en tout cas, nous tenir, alors que c'est par moments et très souvent pénible aussi comme lecture, parce que ça nous renvoie vraiment à des scènes d'une violence, d'une cruauté, qu'elle soit physique, psychique, extrêmement, extrêmement forte. Donc voilà, je lui reconnais à l'évidence une très grande efficacité. Je ne pense pas que ce soit un grand styliste, mais comme Lucille Comeau ne fait plus du tout la moue, je m'inquiète.
Non, j'entends tout à fait ça. Moi, si j'avais un reproche, entre guillemets, à faire à cette écriture-là, c'est que peut-être le style, entre guillemets, se concentre peut-être beaucoup physiquement sur des passages et qu'on sent un petit peu le côté « c'est là qu'on donne tout », notamment sur, en effet, les descriptions que, malgré tout, je trouve saisissantes de repas, de faim, puis de repas, donc d'assouvissement de la faim. Il y a notamment un borsch et un hareng qui fait penser à Artyom à un sexe féminin, à tel point qu'il doit se soulager littéralement parce que ça l'a mis dans un état d'excitation incroyable. Et ce passage-là, c'est quand même sur plusieurs pages, à mon avis, est un coup de maître vraiment d'écriture. Mais en effet, je comprends ce que vous dites sur la totalité du roman. Peut-être l'écriture cède un peu à l'efficacité. Sur Dostoïevski, je pense que la comparaison, c'est dur. Enfin, c'est dur de. Et puis, je comprends en fait un peu sa réponse, dont je pense franchement qu'elle est ironique sur les trois frères Karamazov, parce que Artyom, en fait, c'est même pas vraiment un personnage.
Je pense pas que l'ironie soit chez Prilipine. Ce qui marque le plus, c'est manière de parler de lui-même.
Enfin, bon, après, je connais vraiment pas le personnage. Je n'ai lu que cette fameuse interview dans Le Monde, donc je peux pas en dire. Moi, je l'ai en tout cas entendu comme ça, peut-être à l'aune du roman. Artyom, c'est un personnage qui n'est pas vraiment un personnage, qui est aussi un archipel, qui est une constellation. Pour le coup, autant le lieu, le monde est bordé et autant tout est clos. Et disons strié par l'écriture, autant le personnage d'Artyom, c'est un personnage qui est totalement éclaté et qui est une constellation de plein d'instincts, de volontés, d'ambitions. Et donc du coup, la question d'être un personnage, qu'il soit dostoïevskien ou non, à mon avis, n'est pas vraiment une question. Et c'est pour ça précisément que c'est un personnage intéressant.
Prilipine, il me semble-t-il, est dans ses murs.
Il pourrait venir nous expliquer tout ça, d'ailleurs.
Il est venu ce midi à la grande table avec Olivier Gesbert s'expliquer d'un certain nombre de choses. Encore un mot ou deux. Enfin, alors, quoi, avec vous, ça veut dire 27 minutes, mais je tente la chance.
C'est très aimable, Arnaud.
Oh, c'est pas grave, on parlera pas de Pierre Sautreuil.
Toujours le chantage. Non, c'est vrai. Je vais rester sur les problèmes formels. Je rejoins totalement Raphaël sur des questions politiques quand même assez difficile avec Prilipine, mais passons. De toute façon, on va y revenir à propos de Sautreuil. Mais pour moi, il y a vraiment un problème. Vous parlez d'efficacité, oui, ça se lit agréablement, mais il n'a pas l'efficacité de ce qu'il veut faire. Et ce qu'il veut faire, c'est formellement, c'est à tous égards profondément et sérieusement Dostoïevski, si on peut résumer les choses ainsi. C'est-à-dire apporter quelque chose de l'âme russe, car c'est son sujet, ce qu'il écrit à la fin du livre le dit, le passage que Raphaël a cité sur la Russie qui n'a pas de pitié, c'est une espèce de post-scriptum théorique en réalité, où il montre qu'il s'agit dans ce livre pour lui de montrer ce qu'est la Russie, de montrer quelque chose, encore une fois, d'une âme russe. Et cela demande un sens de l'intensité qu'il n'a pas en réalité. C'est un problème structurel. Il n'a pas le sens du mouvement des chapitres. Chaque chapitre se termine de manière assez terne. Il n'a pas le sens de la relance. Ces séquences. Il n'y a pas de chapitre, mais je le montre à notre cher public. Il y a des lignes, une double ligne blanche entre certains passages, ce que j'appelle les séquences, si vous préférez. Il n'y a pas de relance, mais c'est vrai également à l'égard des deux parties. Il est censé terminer sa première partie sur ce qui doit être une grande scène. On y voit le chef du camp passer en revue ses prisonniers dans une sorte de vision qui devrait être une vision pour le coup à la Bosch, une vision de l'enfer. Non, c'est très plat. C'est une liste de ce qu'il devrait y avoir dans cette scène dostoïevskienne. À un moment, il dit de son personnage, il était désinvolte, insouciant, provoquant, léger. Voilà comment on décrit un personnage. Allez voir chez Dostoïevski si c'est comme ça qu'on sait que les personnages sont désinvolte, etc.
Arrêtez de m'agacer, Lucille Comeau, hein, Florent Georges.
Ah, parce qu'elle risque de répondre.
Non, mais je ne comprends pas. C'est pas la comparaison absolue. Pas,
non, mais oubliez la comparaison.
Dès qu'on fait un gros roman russe, on parle de Dostoïevski.
Ne le relancez pas.
La promotion du livre est faite sur le nom de Dostoïevski. C'est en quatrième de couverture. Lui ne parle que de Dostoïevski. Et par ailleurs, là, moi, je ne parlais pas que de Dostoïevski. Je parlais du manque d'intensité dans ce livre. Oubliez Dostoïevski, si vous voulez.
Raphaël Léris, dernier mot sur ce livre de Prilipine.
Par ailleurs, il parle également d'Essénine et de Tolstoï et de Tchekhov. Il y a un motif des mouettes récurrent qui est très beau pour moi. Donc, je pense qu'on ne peut pas limiter la conversation à se disputer sur la question de Dostoïevski, et pour moi c'est vraiment une expérience, en tout cas ce roman littéraire importante.
Bon, nous n'avons pas fait que parler de cela, mais L'archipel des Solovki de Zakhar Prilépine, traduit par Joël Dublanchet, donc publié chez Actes Sud, et à suivre dans la dispute en effet Pierre Sautreuil et un peu plus tard Aaron Appelfeld.
France Culture,
la dispute,
Arnaud Laporte.
Pour la suite de cette dispute en public depuis le Salon du Livre Paris à la Porte de Versailles, un enchaînement donc tout trouvé, puisque Zakhar Prilépine, dont nous parlions à l'instant, s'est engagé dans les forces militaires de la République populaire de Donetsk début 2017, lors de la guerre du Donbass. Le jeune journaliste Pierre Sautreuil, lui, vient de publier Les guerres perdues de Youri Belaïev, récit des conflits qui ont embrasé cette partie du monde et leurs conséquences, à travers justement la figure assez complexe de ce Youri Belaïev. Les immeubles d'Alchevsk émergent du brouillard. Étrange sensation que de rouler dans les rues quasi désertes d'une ville plus vaste que Lyon. Les boutiques sont fermées et les banques vides. Le long des avenues, des aulnes blessées ont dispersé les éclats d'écorce et de ramures près des cratères d'obus. Sur la place centrale, un groupe de lycéennes en manteaux colorés échange des plaisanteries autour d'un banc. Des enfants s'agitent dans une aire de jeu, entraînant dans leur glissade des écailles de peinture au bas des toboggans. La brume se lève lentement. À 100 à l'heure sur son tourniquet, un gamin hilar pointe du doigt le tank qui fait le tour de la place. Un soldat nous indique le QG de Mozgovoï. Sur son piédestal, Lénine garde les mains dans ses poches. Une dizaine d'hommes, en armes, font le pied de grue devant un ancien atelier d'imprimerie. Prévenu notre arrivée, Mozgovoï accepte de nous recevoir. Nous sommes conduits à l'étage après une fouille minutieuse. Le commandant n'a pas que des amis dans la région. Immobile, derrière un bureau surchargé de statuettes en jade, Mozgovoï, crâne lisse et bouc bien taillé, nous invite à nous asseoir. Des dizaines d'icônes et d'armes à feu s'entassent dans un coin de la pièce entre une plante verte et une réplique d'épée de Conan le Barbare. Un drapeau soviétique recouvre une armoire IKEA. En face, une bannière noire frappée d'une tête de mort arbore un credo orthodoxe. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. C'est une des très nombreuses scènes décrites par Pierre Sautreuil dans ce livre qui est un récit, Florent Georgesco.
Oui, c'est un récit, c'est même un reportage si vous le voulez, puisque Pierre Sautreuil est un très jeune journaliste qui était en 2015, donc, et c'est le moment de ce récit, qui était en reportage comme journaliste indépendant dans le Donbass. Donc, je crois qu'il était à l'école de journalisme de Sciences Po et qu'il a fait ce qu'on appelle son année de césure, une année d'interruption de ses études, dans le Donbass. Bon, voilà, c'est un garçon qui a un certain courage. Et au-delà de ça, moi, j'avais envie de parler de ce livre pour deux raisons. Qui ne sont pas sur le même plan. D'abord, je trouve très utile dans ce salon où la Russie est assez présente d'avoir cette connaissance de ce qui se passe en ce moment, puisque tout cela, son récit encore une fois a 2 ans, mais enfin tout cela continue de la même manière là-bas. C'était assez intéressant de voir d'assez près la structuration actuelle du nationalisme russe, disons, d'autant qu'il est à cet égard le livre est d'une richesse et d'une précision dans la structure justement de ce nationalisme et de l'impérialisme russe. Je pense, peut vraiment éclairer. Mais par ailleurs, c'est un livre extrêmement puissant, qui est pour moi vraiment dans le registre du récit journalistique, si l'on veut, qui est vraiment de l'ordre de la naissance d'un écrivain. C'est quelque chose qui reste imparfait, qui aurait pu sur beaucoup de choses aller plus loin, mais ce garçon a une espèce d'efficacité dans la manière de tenir son réel, de tenir son terrain. Il a une manière de plonger dans la réalité des choses politiques, mais aussi dans les réalités humaines, intimes, des personnages qu'il traite, qui font de lui vraiment un écrivain dans cette ligne de l'écriture non fictionnelle qui est peu exploitée en France, qui n'est pas une grande tradition française, en tout cas depuis quelques décennies, et qui est là peut-être dans un de ces réveils possibles. Donc vraiment, je prête beaucoup de prix à la force littéraire de ce texte. Mais encore une fois, il est, à travers la découverte de ce personnage de Youri Beliaev, qui est un personnage extraordinaire, et en même temps, comme il le montre progressivement à travers le livre, extraordinairement banal, qui est donc, peut-être on ne l'a pas présenter lui-même Beliaev.
On va le présenter après. Dire tiens, on va faire
après,
un tour sur le.
Quelqu'un d'autre pourrait le présenter.
Oui, oui peut-être, mais peut-être ce sera vers vous. Mais vraiment parler de la nature même de ce livre,
oui,
de son genre.
Ne l'écrasons pas en effet sous son sujet qui est passionnant, mais c'est
son écriture. Livre. Raphaël Lérite, votre sentiment. Alors quand vous avez dit jeune, Pierre Sautreuil, je crois qu'il est né en 93, donc très jeune.
Oui, c'est ça. Il dit à un moment donné.
25 ans, si je sais à peu près compter encore.
C'est ça. Il dit je suis né 2 ans avant les accords de Dayton, puisqu'à un moment donné il parle du passage de son personnage en Bosnie. Donc il avait 2 ans au moment des accords de Dayton qui mirent fin à la guerre en Bosnie, ce qui est un petit peu vexant pour les lecteurs.
Les lecteurs plus âgés que lui.
Plus âgés que lui. Oui. Alors. Je trouve qu'il a beaucoup de talent, effectivement. En fait, il me semble que le texte est un peu écrasé par la comparaison qui vient immédiatement en tête avec le Limonov de Carrère, d'Emmanuel Carrère, qui est paru en 2011 chez POL.
Et dont Prilépine était un des personnages.
Dont Prilépine, oui, se trouvait
tout se croise figurant. Ce soir. Oui.
Donc Prilépine, d'ailleurs, qui disait les héros russes sont tous des bandits. Bon, ben voilà, dont acte ici. Je trouve qu'il a beaucoup de talent. Après, le découpage du texte lui enlève du souffle. Et ce texte mériterait, je pense, plus de souffle. Et les courts chapitres qui le constituent, je pense, le font pâtir de quelque chose. Après, vraiment, je suis assez impressionnée par sa maturité d'auteur, par son courage et par la manière dont il se met en scène et dont il joue de cette mise en scène pour s'opposer à son personnage. C'était également ce que faisait Carrère dans Limonov, c'est-à-dire je suis un petit Français qui n'a pas eu tellement affaire à l'histoire, et je regarde ce personnage de bandit un peu fasciste, et on dira ce qu'on voudra, c'est quand même assez fascinant, une figure comme celle-là. Bon ben, lui, quand il se met en scène en journaliste un peu loser, qui attend les piges, qui n'a pas de sous pour sa chambre d'hôtel, qui retourne chez lui à Noël, il y a la télé en fond sonore, tout ça, je trouve que ça fonctionne très très bien, cette mise en scène de lui face à son personnage. Alors, qui est lui aussi un loser, ça n'est pas Limonov, mais qui est quand même assez impressionnant comme figure, et la manière dont il met en scène cette opposition entre les deux, je trouve, fonctionne très bien, et en fond, fait un premier récit que je trouve assez fort.
Bon, c'est bien, on n'a pas encore dit qui était Youri Beliaïev, comme ça c'est peut-être Lucille Como, ou avant qu'on revienne à faire Florent Georgescu, mais on sent bien quand même une sorte de gêne, Raphaël Léris. C'est pas parce que vous êtes collègue dans l'imminent journal Le Monde que vous n'avez pas le droit de dire du mal de quelque chose qu'aime Florent Georgescu. Hein. Vous savez qu'à la dispute, la règle est d'être libre.
Ce qui se passe à la dispute reste à la dispute.
Enfin là, on a quelques témoins, je crois. Vaguement derrière le poste aussi. Lucille Como, votre sentiment sur celui de Pierre Sautreuil, Les guerres perdues de Youri Beliaïev.
Oui, alors moi, j'entends bien l'intérêt documentaire, ça c'est évident, notamment sur côté terrain, la formation de ces milices, parce que c'est d'un archaïsme absolu, la manière dont les pro-russes se sont organisés dans cette zone-là, avec des seigneurs de guerre qui ont parfois seulement une centaine de partisans armés un peu à l'arrache. Bon, tout ça est intéressant. Le personnage donc de fameux Youri Beliaïev... En fait, on se rend compte, vous dites au fur et à mesure, moi je trouve dès le départ qu'en fait c'est pas forcément un très bon sujet parce que dans le fond c'est un homme un peu comme d'autres Russes de cette époque qui ont fait fortune à la lisière de la politique et de la mafia pour se retrouver franchement dans la mafia, pour finalement se retrouver dans la politique un peu par les armes. Moi, j'ai pas été passionnée par le livre parce que je trouve que l'intérêt documentaire ne rattrape pas entre guillemets deux choses qui me dérange assez profondément. C'est d'une part, vous le dites, la mise en scène de lui-même. Dans cette mise en scène, il y a quand même une fascination reconnue, certes, mais est-ce que ça excuse quelque chose pour la violence gratuite, pour le fascisme, pour tout ce mouvement qui s'organise autour de Youri Beliaïev, qui est un peu dérangeant dans la mesure où même s'il le reconnaît parfois, il dit « je suis un petit con, je devrais pas dire ça », bah oui, mais il le dit quand même, et dans le fond, il n'y a pas de contrepoids idéologique à ce qu'il est en train de raconter. Sa relation avec Youri Beliaïev, c'est quand même une relation qui devient franchement filiale, puisque Youri Beliaïev a perdu un enfant et qu'il le considère, on le sent assez lourdement, comme un nouveau fils, un jeune fils. C'est quand même un petit peu gênant l'admiration, la sympathie dont fait montre un journaliste pour ce type de personnage. Par ailleurs, au niveau strictement littéraire, je trouve quand même que c'est pas formidable l'écriture de Pierre Sautreuil. Il y a quelque chose. Moi, j'ai commencé à le lire sans lire la quatrième de couverture. Et je me suis vraiment.
Florent Georgescu s'impatiente et tape sur la table.
Hein. Je ne m'impatiente pas du tout. Non, je proteste. C'est tout à fait.
Vous êtes en train de bouillir.
Il y a quelque chose d'un peu journaliste, je vais dire viriliste, mais c'est un peu fort, mais quand même un peu les couilles sur la table, j'emploie des grossièretés là
fort,
où ça fait
vrai.
Bien. Non, mais je sais pas comment le dire, mais franchement, il y a quelque chose dans l'écriture d'un peu rance et un peu masculiniste qui est un peu lourd. Il y a franchement le mot couille 14 fois par page.
Non.
Dès qu'il s'agit de faire l'amour, on baise.
Pardonnez-moi, enfin, mais c'est factuellement faux ce que vous dites.
Non, c'est factuellement faux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un ton qui est le ton du gonzo journalisme.
Qui n'a pas bien vieilli,
je suis désolée. Parce qu'en effet, il y a que des hommes qui le pratiquent et c'est peut-être malheureux. Mais qui suppure un peu de son style. Moi, ça me gêne. Et ça, vraiment, additionné avec la question idéologique qui est clairement problématique, c'est un peu trop, je trouve.
Alors Florent,
je répète, c'est pas ses couilles qui sont sur la table, c'est celle de Beliaïev. Vous ne pouvez pas reprocher à un type qui fait le portrait d'une brute sanguinaire, d'un virilisme exponentiel, de montrer du virilisme, de la violence et du fascisme.
Non, il parle aussi de lui et des autres journalistes autour de lui.
Non, lui ne dit pas « moi qui suis un seigneur de la guerre ». Il montre des seigneurs de la guerre. Par ailleurs, vous parlez de complaisance. Comment voulez-vous faire dire tout ce qu'il fait dire à Beliaïev? Car nous avons là-dedans des verbatims. Pour ce qui est de l'intérêt journalistique ou historique même de ce livre, il est incontestable dans la mesure où on a le témoignage direct par un acteur lui-même d'une partie du nationalisme russe actuel. Comment voulez-vous qu'il obtienne l'ensemble de ces verbatims sans avoir un art de l'aveu, du déclenchement de l'aveu chez son interlocuteur? C'est aussi ça, le journalisme.
Oui, mais là, là, on n'est pas en train de parler d'un verbatim, on est en train de parler d'un livre construit,
écrit... Ce livre est construit sur ce verbatim.
Ouais, mais il peut quand même le tempérer dans les pages qu'il écrit lui-même.
Oui, mais qu'est-ce qu'il... Mais tempérer quoi? Il parle beaucoup de lui. Il parle beaucoup de ses sentiments vis-à-vis de ce personnage.
Mais à quel moment dit-il que le Donbass doit se séparer de l'Ukraine? À quel moment dit-il qu'il faut qu'on tue tout le monde? Il a des pages extrêmement poignantes sur son angoisse face aux crimes commis par ce Beliaev, parce que justement, il analyse de manière consciente, très lucide, les sentiments, y compris d'affection qu'il commence à nouer avec Beliaev. Je suis désolé, mais sa distance est tout à fait présente dans le livre à cet égard. On voit à quel point ses propres sentiments peuvent l'épouvanter. Mais moi, ce que je dis, c'est que simplement, ce livre est d'une densité d'informations et de réalité humaine de ce qui se passe sur ce terrain qui n'aurait pas pu être obtenu s'il n'avait pas eu cette proximité avec Beliaev. On a souvent reproché ça à tous les gens qui nous ont apporté les témoignages les plus importants sur les pires criminels de l'histoire. Gita Sereni, quand elle fait un livre avec Franz Stengel, qui était commandant de Treblinka, obtient de ce qu'il lui a dit un des livres les plus importants sur la Shoah, et bien entendu qu'elle a dû être aimable avec lui, et bien entendu que certains lui ont reproché.
On parle de la nature de
l'écriture du réel. Non. La nature de l'écriture du réel, c'est la question fondamentale, c'est celle de l'approfondissement du réel. Et l'accusation de complaisance est, je trouve, tout à fait insultante pour ce garçon, et de manière inutile. Il a fait un travail important. Sans lui, nous n'aurions pas certaines connaissances qu'il y a dans ce livre. Et le traité de complaisance, pardon, mais on parle de criminels absolument abominables. On parle de mecs qui tuent des civils.
Mais Florent, c'est pas un compte rendu.
C'est du réel.
Mais non, c'est pas du réel.
Ce qui est une des dimensions possibles de la littérature.
Désolée, c'est non seulement pas un article de journal, mais
non, c'est un livre. Oui. Le livre est un des moyens de connaissance du réel. Ne retirez pas ça au livre.
Oui, peut-être parler, Lucille Comor.
Pardon. Non, mais je veux dire, lui, il se met en scène. Vous pouvez pas nier qu'il se met en scène. Justement, il a d'autant plus la possibilité d'écarter tout soupçon possible de complaisance envers ce personnage.
Vous le soupçonnez d'être pour le massacre de civils en Bosnie?
Bien sûr que non.
Non, mais vous caricaturez.
J'ai pas du tout.
Pendant ce temps, on fait un éloge paisible et littéraire de Prilépine, qui lui est allé tuer du civil tchétchène.
Ça n'a rien à voir. Ça n'est pas la même chose.
Un journaliste qui fait un travail honnête, on l'accuse d'être complaisant envers ces monstres.
On parle des livres. Florent Georgescu, on parle ici des livres. On parle pas des personnes.
Lucille parle des
personnes. Non, on parle de ce qu'on a lu, Florent. Vous répondez à côté. Mais pour ça, parce que vous ne pouvez pas entendre ce qu'on vous dit.
Non, je vous entends très bien.
Non, parce que ne confondons pas les livres et ceux qui les écrivent.
Moi, je pense que c'est de la maladresse.
Un jugement moral sur un livre, il porte sur l'auteur. Vous avez un jugement moral sur ce livre.
Non, elle quand a dit qu'elle a été gênée par, soupçonne, elle n'a pas fait
gênée
des
au nom
accusations.
Quoi, sinon d'une morale.
Je vais vous donner un exemple. Moi, ce qui me gêne, par exemple, c'est un passage où Pierre Sautreuil évoque... en fait, il met un peu en abîme son projet d'écriture en disant on pourrait presque faire un film hollywoodien à la Coppola, je ne sais plus quel film il cite exactement, Casino, je crois, Le Parrain, etc., à partir de ce personnage.
Oui.
Et on sent dans cet enthousiasme, que j'entends très bien, enfin, j'entends l'honnêteté du projet, je trouve qu'on sent quand même, dans quelque chose qui est, d'un point de vue stylistique et formel, une fascination de l'écrivain, Pierre Sautreuil, pour toute une violence qui est déjà une fiction dans sa tête, probablement, mais qui, pour moi, est problématique quand il s'agit justement de la confronter au réel de cette guerre. Je sais pas comment.
La scène que vous évoquez où il évoque les films est une scène où il est seul la nuit, où il se met en scène très clairement dans un état de désarroi, d'angoisse. Il y a tout de suite dans cette scène une distance qui ne permet pas de la confondre avec une scène où il dirait au lecteur, regardez à quel point c'est cool et fascinant, la violence.
Non, mais
c'est pas une scène mise en scène de cette manière. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai, ça.
Mais vous répondez à côté, Florent.
Non, je réponds sur la scène que Lucille vient de citer.
La fascination, elle existe.
Il en parle. La fascination.
C'est de ça dont on parle.
Sauf que la fascination.
Et la limite.
Sauf que dans ce texte, je trouve que la fascination porte moins sur la violence en tant que telle, que de toute façon, il ne voit pas directement, et donc il ne la met pas en scène directement, mais elle porte plus sur le personnage de Beliaev. Et à mon avis, ce qu'il met en scène dans ses sentiments, c'est moins cette fascination, elle existe, mais c'est pas central, qu'une affection qu'il problématise. Comment on peut avoir de l'affection pour ce type? C'est la question qui traverse en permanence ce livre.
Les derniers mots seront donc pour Raphaël Léris.
C'est très gentil.
Oui, pardon.
Non, mais je trouve que, enfin, qu'il parle d'une fascination pour la violence, je crois pas que ce soit exclusif à cette personne et aux journalistes de guerre. Enfin,
il faut un
tempérament particulier hein, pour aller se jeter là-dedans et pour nous rapporter des choses essentielles. Mais ce qu'il met en scène aussi, c'est l'effet de la violence sur lui et comment elle le désagrège également un petit peu au fur et à mesure de son séjour là-bas. Et comment c'est justement aussi l'état de solitude et de tristesse dans lequel le plonge la vie avec le bruit permanent des bombes, l'inquiétude, qui fait qu'il se rapproche de Beliaev, qui est la seule figure amie. Et donc là, de ce point de vue de la mise en scène, moi, je pense qu'il résout ça avec cette description de l'effet de la violence. Et justement, en parallèle, il met l'effet de la violence beaucoup plus énorme du siècle russe sur Beliaev.
Allez, faites votre avis par vous-même en vous procurant, en achetant, vous en offrir. Les guerres perdues de Youri Beliaev de Pierre Sautreuil, publié chez Grasset.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute consacrée ce soir à la littérature en public depuis le salon Livre Paris, la Porte de Versailles, c'est pour parler à présent de l'écrivain israélien Aaron Appelfeld. Appelfeld né en Bukovine en 1932, qui s'évada d'un camp de concentration roumain à l'âge de 12 ans, qui a été recueilli par l'armée rouge, qui a traversé l'Europe dans un convoi d'orphelins, qui a débarqué en Palestine. Cette histoire, Appelfeld en a fait la matière de nombre de ses livres, bien sûr. L'écrivain a d'ailleurs reçu le prix Médicis étranger en 2004 avec « Histoire d'une vie ». Cette histoire, il n'a cessé d'y revenir. C'est le cas une nouvelle fois avec « Des jours d'une stupéfiante clarté » publié aux éditions de l'Olivier dans une traduction de la fidèle Valérie Zenati. On verra qu'un monastère encore a une grande importance. Puis ému de parler de lui parce qu'il est mort le 4 janvier dernier. On a été quelques-uns, j'imagine, avoir la chance de le rencontrer, de l'interroger. Moi, j'ai un souvenir mémorable d'ailleurs ici au Salon du Livre où j'avais fait se rencontrer Aaron Appelfeld et Art Spiegelman. Ils étaient assez émus l'un et l'autre. Et moi de parler d'eux ce soir. À la fin de la guerre, Théo décida qu'il ferait seul le chemin de retour jusqu'à sa maison, tout droit et sans prendre de détour. Malgré la distance de plusieurs centaines de kilomètres qui le séparaient de chez lui, il avait l'impression de voir la route se dérouler avec clarté sous ses yeux, sur toute sa longueur. Il savait que cette décision l'éloignerait de ses camarades et le contraindrait à passer des jours entiers au milieu d'étendues immenses et désolées, mais il était déterminé. Il partit sans faire ses adieux. Il avait prévu de marcher à pas réguliers, concentré sur la route. Pourtant, ses jambes impatientes le poussèrent à accélérer. Au bout d'une heure, il s'effondra, épuisé. Il était dans un champ ouvert et sauvage, jonché de véhicules brûlés et de boîtes de conserve vides. Ses vestiges calcinés de la guerre ne l'émurent pas. Il resta assis, alors qu'il aurait tant voulu poursuivre son chemin. Des images des derniers jours tentèrent de s'insinuer en lui, mais il secoua la tête et se remit debout. Ce sont là les toutes premières livres de ce livre d'Aaron Appelfeld, « Des jours d'une stupéfiante clarté ». C'est Raphaël Léry, ça c'est logiquement, qui commence à nous en parler.
Là, je suis moi aussi très émue de parler de ce texte et de l'avoir lu, surtout si peu de temps après la mort de ce très grand écrivain. C'est un texte bien dans sa veine, même s'il s'approche peut-être plus que jamais de ce que ça a été de se reconstruire immédiatement après. Parce que, par exemple, dans « Le garçon qui voulait dormir », on était un tout petit peu après la fin de la guerre, et c'était l'histoire d'un enfant qui voulait dormir pour pendant le voyage jusqu'en Palestine, et même pendant, et qui essayait d'échapper au monde par le sommeil. Donc là, on est vraiment juste dans l'après. Les camps sont ouverts. Et Théo Kornfeld sort. Et c'est un texte qui a une espèce d'aura de conte dans sa simplicité, quelque chose de presque onirique. Et le champ lexical de l'aura, du halo, me semble d'autant plus indiqué que, comme le titre l'indique, c'est un texte qui baigne dans une lumière presque irréelle et complètement époustouflante d'un bout à l'autre, pour moi en tout cas, de ce livre. Et on suit donc Théo qui fait le chemin vers sa maison et qui croise sur la route essentiellement d'anciens déportés comme lui. Donc d'une part, dans ce texte, il s'agit de renouer avec son individualité. On a été dans un groupe, on a été que ce groupe, et donc il renoue avec ce qu'il a été, le jeu qui lui a été nié, et d'ailleurs dont on va voir par la suite, il est nié aux collabos qu'il rencontre sur son chemin. Et par ailleurs, alors ce qui me semble le plus extraordinairement bouleversant, parce qu'il appuie jamais là-dessus, c'est où on rentre quand on veut rentrer chez soi après les camps. Et donc il avance, il va tout droit, comme vous le disiez dans le paragraphe, il rencontre des gens qui lui disent « Mais qu'est-ce que tu crois que tu vas pouvoir retrouver là-bas » et il continue, et je trouve que cette espèce d'aura onirique, alors qu'on le suit, c'est somptueux, d'autant plus donc qu'au fur et à mesure, il se souvient d'avant la guerre, et notamment de sa mère, le personnage de Yeti, qui est absolument magnifique, qui a une folie. Donc elle est obsédée par Bach, donc parce qu'il y a aussi une veine très très métaphysique dans ce texte-là, une espèce de recherche de transcendance dont on ne sait pas où elle peut se trouver. Mais pour la mère, elle se trouvait chez Bach et elle est probablement, en tout cas il l'espère, cachée dans un monastère. Et c'est aussi vers là qu'il marche. Et donc c'est toutes ces dimensions de ce texte en font pour moi vraiment quelque chose de magnifique.
Lucille Comeau, à propos de ce livre d'Aaron Appelfeld.
Oui, il y a en effet deux niveaux. Enfin, on pourrait croire ça au début du récit, qui est donc le récit du retour de camp. Et en effet, ces moments qui sont ou des moments de souvenir ou des moments de rêve, qui finissent même par devenir en fait des moments d'hallucination, à tel point que, au bout d'un moment, tout se confond et ces deux niveaux se brouillent jusqu'à devenir cette espèce de stupéfiante clarté dans laquelle se mélangent le présent, le passé, le souvenir et peut-être des choses même qui sont inventées par le personnage. Le premier personnage qu'il rencontre est une femme qui s'appelle Madeleine et qui est sortie comme lui, d'un camp. Et il se trouve, coïncidence qui paraît totalement absurde du point de vue du récit, que cette Madeleine connaissait ses parents et même a été peut-être l'amoureuse ou du moins la promise de son père. On comprend assez vite qu'en fait, peut-être ce personnage n'existe pas, et dans le fond, comme tous les personnages que rencontre Théo, ce sont des sortes d'instances qui ne font que le confronter à justement la question de la maison, la question de soi, la question de l'autre. C'est ça qui est très beau, je trouve, c'est la manière dont tout devient très abstrait pour se fondre finalement en un parcours initiatique qui, à mon avis, vous le disiez, Raphaël, est presque un parcours de conversion. La question de la conversion est récurrente. Pas la conversion à une religion ou à une croyance établie, mais une conversion d'un ordre peut-être plus métaphysique vers la foi en général. D'ailleurs, je crois que le mot foi est à la dernière page du roman. Moi, c'est vraiment l'abstraction que j'ai aimée. Parfois, ça m'a même fait penser, je ne sais pas si c'est très pertinent, mais à du théâtre et à du théâtre de l'absurde, même un peu beckettien dans la manière dont les motifs se répètent. En fait, il y a très peu de choses. Les choses se répètent et deviennent totalement abstraites. Par exemple, une femme qui vend des sandwichs à l'entrée d'un camp de fortune. Qui les donne. Oui, voilà, exactement. Et elle revient à plusieurs reprises. On ne sait pas si c'est la même. On ne sait pas exactement à quoi elle sert à ce moment-là du récit. Mais il y a quelque chose du théâtre dans ce récit-là.
Florent Georgescu.
Je reviens sur ce personnage-là, de la donneuse de sandwich, qui est un magnifique personnage, en effet, qui revient à chaque fois pour dire à chaque fois la même chose. C'est-à-dire, je cite un des passages, mais il y en a plusieurs. « La joie revient en moi lorsque je sers du café au rescapé. Je ne demande rien, si ce n'est d'avoir la force de me lever chaque matin, d'allumer le réchaud et de préparer mes sandwichs. » Et cela revient tout le temps. Et ce personnage-là donne le ton de cette douceur très étrange qu'il y a tout le long du livre. Raphaël parlait d'une aura de conte. Il y a un sens de la bonté dans le livre qui est extrêmement bouleversant. Beaucoup des personnages et Théo lui-même pensent à la bonté nécessaire. On est au moment de l'histoire où la bonté est possible, où le bien peut peut-être à nouveau exister. Et il y a un effort vers cette bonté qui est presque irréel, en effet, dans le livre, qui fait flotter, en quelque sorte, le livre dans cette irréalité qui est une sorte de disponibilité à tout. Cette bonté, c'est aussi une manière de ne pas s'avancer, de ne pas exister par soi-même, de faire le vide. J'avais, dès les premières pages, d'ailleurs, dans l'errance même du personnage, ce sentiment du vide, de la disponibilité à tout. Il marche, il va quelque part, mais il y a très peu de pages dans le livre, enfin, c'est plutôt vers la fin, où il cherche sa direction. On ne sait même pas si, au fond, il prend la bonne direction. Il marche, voilà ce qu'il fait, et il est disponible à tout. Il y a une part très importante du rêve, notamment dans le livre, les sensations, la nature, et les rêves, et les souvenirs, bien sûr, qui sont une grande partie du livre, se mêlent dans cette espèce d'espace vide que semble devenu ce garçon, et ce vide, cette disponibilité et cette douceur créent quelque chose d'une enfance. Et il y a un passage du livre, je vais pas le rechercher là, mais où c'est dit, nous sommes désormais comme des enfants, et le monde est à son enfance, parce qu'au fond, nous venons, nous qui sortons des camps, d'être détruits, mais le monde vient d'être détruit en ayant atteint ce comble de l'horreur. Il nous reste à renaître, et quand on renaît, qu'est-ce qu'on est? On est un enfant. Et voilà un peu la leçon, mais esthétique, la leçon poétique d'Appelfeld, c'est créer le ton de l'enfance, de cette enfance du dernier matin, enfin, ou du nouveau matin, de ce qui peut suivre, de ce qui n'est pas encore, de ce qui peut-être ne sera plus dans ce cauchemar que nous avons vécu.
Mais c'est vrai qu'à cet égard, le voyage ou le chemin, il est autant intérieur, c'est une sorte de descente en soi. Oui. Vous parlez de son cheminement, et on ne sait pas très bien, en effet, même s'il y a une disponibilité totale à l'espace, aux espaces, à la nature, il y a quand même un rapport contemplatif aussi, mais on a l'impression qu'il regarde autant à l'intérieur que l'extérieur, il y a quelque chose de...
Les deux sont confondus. Lucille parlait des gens qu'elle rencontre, des coïncidences invraisemblables. C'est comme si son monde intérieur se projetait. Les gens qu'il rencontre, c'est lui, c'est son passé, c'est les bribes qui lui restent.
Raphaël Léris, dernier mot.
C'est aussi un merveilleux écrivain du silence qui a été contraint dans son enfance au silence. Et à plusieurs reprises, il y est question de qu'est-ce qu'on fait du langage après les camps. Et ce que vous disiez sur la contemplation, elle tient aussi à ce rapport-là au silence et à cet emploi d'une langue extraordinairement simple qui ne se paye jamais de mots. Et qui fait pour moi d'Aaron Appelfeld un des immenses écrivains du siècle passé.
Lucille Comeau, vous concluez ?
Non, je me faisais juste la réflexion que le seul personnage qui est en couleur, entre guillemets, qui est un corps et qui est réellement réel, c'est justement la mère qui n'existe pas dans le récit et dont on peut aussi douter de l'existence, mais qui est vraiment un personnage magnifique et en effet écrit en très très peu de choses, très très peu de mots.
Des jours d'une stupéfiante clarté d'Aaron Appelfeld est donc publié aux éditions de l'Olivier dans une traduction de Valérie Zenati. Et avant de conclure tout à fait cette émission et de vous donner le programme de la soirée aussi, c'est l'heure du jeu de la dispute avec Camille André qui nous a rejoint pour nous rappeler d'abord la question du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse, Camille.
Dans quel célèbre film de Wim Wenders peut-on voir Bruno Ganz tomber littéralement amoureux d'une trapéziste? Et il s'agissait des ailes du désir.
Ce soir, des invitations à gagner pour l'exposition Parfums de Chine, la culture de l'encens au temps des empereurs, jusqu'au 26 août au musée Cernoschi à Paris. Quelle est la question?
Eh bien, sous quelle dynastie les parfums furent encensés par les lettrés en Chine, donnant ainsi lieu à des ouvrages entièrement consacrés à ce sujet?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter nos émissions, vous abonner au podcast. On se donne rendez-vous lundi à 19h pour une dispute consacrée au théâtre. Nous serons en compagnie d'Anna Segalevitch, René Solis et Jean-Christophe Brianchon à notre affiche « Vêtir ceux qui sont nus ».
de Luigi Pirandello, mise en scène par Marie-Josée Malice. C'est au Théâtre de la Commune à Aubervilliers. Nous parlerons également de Notre Innocence, écrit et mise en scène par Wajdi Mouawad en ce moment à La Colline. Et puis La Cerisée d'Anton Tchekhov, mise en scène par Christian Benedetti au Théâtre Studio Alfortville.